nouvelle année, enfin, au milieu d'année du séminaire, et sur ce séminaire sur l'avenir de la bêtise 2, qui est un vaste programme. Et nous avons le grand plaisir d'écouter aujourd'hui Pierre-Marc de Biasi et Jacques Neff, qui vont nous parler successivement des carnets de Flaubert, des enquêtes sur la bêtise et les carnets de Flaubert. Et Jacques nous parlera, on en parlera en temps utile, de stupeur et bêtise, Borges et Flaubert. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Pierre-Marc et je refais passer le sommaire de notre dossier 4 de la revue Flaubert sur Flaubert et l'histoire des religions qui est co-dirigé par Philippe Dufour, Dagmar Stöfferlet et Agnès Bouvier. Il est en ligne et vous pouvez vous reporter au site de la revue. Voilà, je fais passer
Anne. Anne. Tu peux faire passer ça, parce que c'est devenu un objet rare.
Ah oui. Alors, Pierre-Marc nous a montré son précieux ouvrage, Les carnets de travail de Flaubert, qui a été vraiment une édition fondatrice, et dont on espère qu'elle va être republiée.
Oui, oui, justement. Enfin, je vous le fais passer, parce que c'est un bouquin qu'on ne trouve plus depuis très longtemps, et qu'on trouve sur eBay, pour assez cher. D'ailleurs, si vous en trouvez à moins de 100 euros, achetez-les, parce que vous pouvez les revendre 100 euros sur eBay. Mais qui est complètement épuisé depuis très longtemps et que je me prépare à rééditer au seuil en même temps que les carnets de voyage. En principe, ça devrait sortir en 2012. Je termine cette année et c'est prévu pour une sortie en 2012 sous la forme de deux gros volumes, 2000 pages chacun à peu près. Alors. Et 2000 pages, ça veut dire que la promenade que je vous propose a été un petit peu ardue à préparer et qu'elle est, que je vais rendre enfin, aussi exhaustive que possible, mais dans une mesure que je vais préciser quand même tout de suite. Les carnets de travail comme les carnets de voyage sont des espaces très complexes, dans lesquels la bêtise comme thématique peut prendre des formes extraordinairement variables. Et je me suis attaché pour l'exercice de ce matin à ne vous parler que des cas où, sous la forme du mot bêtise, sottise, crétinerie, idiotie, etc., ou bien idiot, bête, bêtise, etc., le thème est affiché en tant que tel. Alors, on aura l'occasion, bien entendu, de parler pas mal de Bouvard et Pécuchet. Il est clair que tout ce qui se rapporte à Bouvard et Pécuchet peut être, d'une manière ou d'une autre, pensé en termes d'éléments de la thématique bêtise. Et bien sûr, je n'ai pas retenu la totalité des informations qui s'y rapportent. Alors, je crois que la première considération à faire, c'est de bien marquer les différences qui existent entre l'univers des carnets de voyage et l'univers des carnets de travail. En termes de repérage d'occurrences affichées, pour ce qui est de la bêtise, les résultats sont assez significatifs. Je vais vous commenter 12 occurrences dans les carnets de voyage et 25 dans les carnets de travail. Elles sont représentatives d'une présence, à mon avis, tendanciellement de moitié inférieure dans les carnets de voyage. Alors, j'ai cherché toutes sortes d'astuces pour pouvoir présenter de manière homogène les carnets, et puis finalement j'ai renoncé, parce que je crois qu'il faut maintenir la distinction carnet de voyage, carnet de travail, même pour la présentation de la problématique. Donc on va commencer par les carnets de voyage. Alors, phénomène qui va se retrouver pour les carnets de travail, la bêtise n'est pas présente dans tous les carnets. Et même, on peut dire qu'elle est absente de beaucoup de carnets. Le thème de la bêtise est absent des carnets 5 sur l'Égypte, 6 sur l'Égypte, le Liban, la Palestine, 7 sur l'Asie mineure, 8 sur la Grèce, 9 sur l'Italie de 1851, l'Italie du retour du voyage d'Orient, et 9 bis, c'est-à-dire le carnet du voyage en Angleterre de 1851, juste au moment du début de Madame Bovary. En revanche, le thème de la bêtise est présent Dans le carnet 1, le voyage en Italie de 1845, le premier voyage international de Flaubert. Dans les carnets 2 et 3, le voyage en Bretagne, avec Ducamp. Dans le carnet 4 d'Égypte, le premier carnet d'Égypte. Et puis dans le carnet 10 du Maghreb, le carnet de Tunisie. La Grande Tunisie, qui est en train de faire sa révolution. Alors, les carnets de voyage, au fond, nous donnent à parcourir des itinéraires de réflexion sur la bêtise qui sont, par certains points, on va le voir, assez comparables à ceux des carnets de travail, et puis par d'autres, bien entendu, propres à l'espace du voyage, c'est-à-dire à un espace d'expérience de la bêtise qui peut être une expérience tout à fait inattendue, par le voyage comme expérience de promiscuité avec la bêtise. Je prends comme symbole le départ de Flaubert pour la Tunisie, quand il prend le train avant de s'embarquer à Marseille pour traverser la Méditerranée. Alors les premières notes de ce carnet disent « Lundi 12, au chemin de fer, marin, mes trois compagnons, bêtes de nullité. Premier blond à pointe, deuxième vieux mastoc blanc collet de fourrure à son manteau, troisième monsieur bien étant du nord et s'occupant d'agriculture, il disserte sur les huiles, la nuit est belle et les étoiles brillent, je fume et refume en retournant en moi toutes mes vieilleries. » Alors, vous voyez là, je trouve que c'est un beau symbole à la fois de la promiscuité inévitable, hein, les voyageurs, hein, leur conversation, de l'opposition entre la bêtise des conversations et la beauté éternelle des choses, hein, de la nature, la nuit est belle, les étoiles brillent, et puis de la procédure de sauvegarde que Flaubert adopte en fumant énormément, c'est-à-dire en s'enveloppant d'un nuage de fumée qui le met à l'abri, au moins de la visibilité des crétins. L'expérience de la bêtise en voyage peut être une expérience forte, puissante, et se rapporter au fond à des éléments fondamentaux pour l'écrivain, pour Flaubert. Je pense à l'expérience de l'infrahumanité comme expérience positive, l'expérience de l'infrahumanité par la bestialité de l'idiotie. Vous savez que Flaubert a cette caractéristique très présente dans la correspondance, dans les textes, des textes de jeunesse notamment, et sur laquelle j'étais revenu dans mon dernier bouquin sur Flaubert, qui est une sorte de sensation d'empathie avec les idiots, les fous, les anormaux, les handicapés. Alors, c'est une expérience que le voyage lui donne très tôt, le premier voyage, voyage 1 en Italie, 24 mai 1845, Marigny, Suisse. Martigny, pardon, Suisse. À Martigny, surtout, c'est la vraie Suisse, verte, neigeuse au sommet, plantureuse dans sa vallée. Déjeuner à Sierre, chez le beau-frère de l'hôtelière du Simplon. Les trois idiotes, pantomime, quand je leur ai donné de l'argent, expression, figure carrée, nez camus, goitre, elles me faisaient des signes d'amitié, passaient leurs mains sur leur visage. J'estime les fous et les animaux. Est-ce parce qu'ils sentent que je les comprends et que j'entre dans leur monde? Mais l'expérience de l'infrahumanité n'est pas toujours positive. Et le voyage peut être l'occasion de mesurer à quel point il existe une indécence de la bêtise sociale. C'est pour Flaubert, par exemple, l'expérience de l'infrahumanité carcérale dans la visite du bagne de Toulon. Quelques notes sur le bourgeois et le poète, en gros. En avril 1945, en route pour l'Italie, Flaubert séjourne à Toulon. Il y a comme une sorte de figure obligée visite du bagne, et notamment visite de l'hôpital du bagne. Ils y passent une journée entière, ils y vont le matin et ils y retournent l'après-midi. Et voilà ce que donne la note. Nous y sommes revenus l'après-midi. Il y a une indécence bien bête à venir voir des forçats. Les honnêtes femmes y viennent, ils les regardent avec leurs lorgnons pour voir si ce sont des hommes. mine du bourgeois se promenant en gants blancs, leur lit de planches, c'est là-dessus qu'on rugit et qu'on se masturbe. Ô poète, viens la nuit et entre dans leurs rêves, tu feras ensuite l'histoire de l'humanité. Que ne donnerait-on pour savoir toutes leurs histoires ? Alors, une des caractéristiques de ces notes sur la bêtise, c'est que la dimension sociale de la bêtise, des us et coutumes, est souvent très forte. Et on note une assez grande quantité de remarques sur la bêtise des usages, et notamment des obligations sociales, des obligations des usages. La bêtise de devoir se comporter comme il faut, d'être un jeune homme comme il faut. Et la bêtise pour un groupe de devoir se comporter comme il faut, même si c'est pénible pour tous les partenaires. Par exemple, dans le carnet 3, donc le voyage en Bretagne, il est avec Ducamp et dîner chez M. Guettier, promenade le soir, avec eux, point d'exclamation, sur la grève. Le lendemain, déjeuner où l'on boit, parce qu'il faut boire, et offert, parce qu'il avait fallu l'offrir. Mais que c'est triste et bête tout ça. Comme c'est peu selon le cœur, et cette pluie qui tombait, et qui a duré toute la journée, comme elle est harmonique, elle, avec le fond de notre cœur. Alors, il y a toutes sortes de notes aussi sur la... Ça, c'est le côté anticlérical de Flaubert sur la bêtise des bondieuseries. J'en ai choisi qu'une. Sainte-Anne-d'Auray, toujours le voyage en Bretagne, église ornée de tableaux ex-voto, boutique d'objets de piété, gueuserie bête, de tout cela. On verra ce qu'il en fait dans l'éducation sentimentale avec les boutiques d'objets de piété. Dans les cas d'ignorance et de comportement stéréotypé, il y a évidemment un moment fort dans les carnets, c'est celui du moment de la tentation de Bruegel, en mai 45, au palais Balbi à Gênes. Ce moment qui sera déterminant pour une partie de l'histoire littéraire de Flaubert est un moment qui est pour lui... au moins autant celui de la découverte d'une œuvre extraordinaire qui va le troubler et l'inspirer, que la découverte de, en tout cas la notation, de la bêtise qui accompagne le regard sur ce tableau. Portrait du Titien, par lui-même, teint pâle, cheveux roux, blonds, yeux bleus, crâne fort et ardent, expression élevée, antisensuelle. Dans la figure des grands artistes, tout se concentre dans l'œil, puis une ligne plus loin, la tentation de Bruegel, une femme couchée nue, l'amour dans un coin. Pendant que je regardais la tentation de Bruegel, est venu un monsieur et une dame qui sont partis à peine entrés. Leur mine devant ces toiles était quelque chose de très profond comme bêtise. Ils accomplissaient un devoir. Alors, une remarque qu'on peut faire sur ces notes de Flaubert de voyage concernant la bêtise des autres, c'est qu'à certains moments, il se sent obligé de passer à l'autodérision, c'est-à-dire, et ça c'est un phénomène très flaubertien, de pointer, d'épingler, si vous voulez, la bêtise de ses propres réflexions à prétention philosophique. Il y a un cas amusant qui est le cas à Monza, en Italie, en 1845, donc, il est un petit peu dans les visites obligées de musée, donc en train de regarder la couronne de fer, c'est la fameuse couronne de Charlemagne, Lothaire, Barberousse, Charles Quint, et c'est Napoléon même. Couronne de fer avec toutes sortes de pierres précieuses autour, et il note ceci. La couronne de fer, est-ce que Charlemagne a pu se l'entrer sur la tête? Elle me semble petite. On ne faisait peut-être que la poser. Les couronnes, en effet, tiennent peu sur la tête des rois, et c'est là que commencent ses pensées philosophiques. Les couronnes, en effet, tiennent peu sur la tête des rois. Ils font comme un bourgeois qui se promène par un grand vent et qui a peur de perdre son chapeau. Ils l'enfoncent le plus qu'ils peuvent au risque de se faire saigner les oreilles. Puis, au moment où ils n'y pensent plus, elles volent au diable. On a allumé des cierges et on l'a encensé. Était-ce la croix? Était-ce les reliques qui y sont? Était-ce la couronne de fer? La mémoire de ceux qui l'ont mise, À quelle idole sacrifiait l'homme qui s'est agenouillé à ce moment-là? À aucune. Et voilà, comme les gens qui font des réflexions philosophiques sont bêtes. Donc, il y a toujours, chez Flaubert, cette inquiétude de principe sur l'exploration de la bêtise, d'accord, mais est-ce que je ne suis pas en train de moi-même en faire? Les carnets de voyage sont dominés par ce qu'on pourrait appeler la trace monumentale de la bêtise. La trace monumentale de la bêtise au sens de l'obsession d'écrire son nom sur les monuments. Au fond, on va le voir dans les carnets de travail aussi, c'est assez présent. La bêtise, avant tout, c'est de chercher à être connu, à laisser son nom à la postérité, mais de la façon la plus triviale, quoi, ras des pâquerettes, en gravant son nom partout là où on le peut. Alors il y a en Égypte plusieurs expériences fortes qu'il fait de cette obsession touristique de graver son nom partout, de l'écrire ou de le peindre. Par exemple, la colonne de Pompée, alors je lis la note, colonne de Pompée, beau monolithe, un monolithe avec un splendide chapiteau corinthien et le nom Thompson of Sunderland, écrit à la peinture noire, sur la base, en lettres de 3 pieds de haut. 3 pieds de haut, vous voyez ce que ça fait 1 mètre. Quoi. 1 mètre, ça se voit à 2 kilomètres. Même constatation du côté de l'obsession d'écrire son nom sur les monuments, aux pyramides. Seconde pyramide, au fond, sarcophage vide sous le nom de Belzoni. Sous le nom de Belzoni, celui de Monsieur de Chasseloup-Lauba. On est irrité par les noms d'imbéciles écrits partout. En haut de la pyramide, en haut de la grande pyramide, il y a un Buffard, 79 rue Saint-Martin, fabricant de papier peint. Paris, etc. Jenny Lind, etc. Presque tous des noms modernes. Jenny Lind, c'est une cantatrice qui venait juste d'ailleurs de commencer. On est en 49 et elle avait fait le début de sa tournée en Europe en 47. Et puis elle venait de s'inscrire en 49 pour faire une tournée aux États-Unis dans le Barnum. Et donc c'était une inscription toute fraîche. Alors évidemment, inscrire son nom est une très grosse bêtise. Ducamp et Flaubert en sont convaincus. Ça ne les empêche pas de prendre la bêtise au second degré, puisque c'est la fameuse histoire du sublime et de la blague, la fameuse histoire de l'inscription d'Hubert Frotteur en haut de la grande pyramide. Je vous relis les notes. La bêtise devenant objet de plaisanterie. Alors c'est le moment où, le matin, il se décide à gravir la grande pyramide, ce qui est une lourde affaire. Les pierres n'ont pas moins de 3 pieds de haut, comme les inscriptions de la colonne de Pompée. Nous montons par l'angle de gauche, max en avant. Les Arabes me tirent, me poussent, n'en peux plus. C'est désespérant, déchirement. Arrêté 5 ou 6 fois. Enfin, j'arrive au haut. Nous attendons le lever du soleil une bonne demi-heure. Et là, suit une très belle description de ce lever de soleil du haut des pyramides. En face, le ciel a une bande orange du côté où va se lever le soleil. Tout ce qui est entre lui et nous est tout blanc et semble un océan. Cela se retire et monte. Soleil, il va vite et monte par-dessus. Les nuages oblongs qui semblent du duvet d'un flou inexprimable. Au fond, un peu à gauche, les minarets du Caire et surtout la mosquée de Mehemet, dominant les autres. Je trouve, du côté du soleil, le vent, Hubert Frotteur. Alors c'est une plaque en fait que Ducamp a été épinglé, c'est pour ça qu'il montait plus vite que Flaubert, parce qu'il montait avant lui pour installer sa blague. Quoi. Et je trouve du côté du soleil levant Hubert Frotteur, état pathétique de Max qui s'était dépêché pour la porter et avec huilé en crevé d'essoufflement. Donc les deux copains mettent en scène la bêtise de l'inscription. Et puis alors, dans les carnets, il y a un phénomène un peu propre à Flaubert, je pense, ou peut-être propre à une certaine inspiration au 19e, qui est le goût, mais je n'ai retenu qu'une, pour ne pas choquer les oreilles des jeunes filles, je n'ai retenu qu'une quinquinca, quoi. Le lien du scabreux et de la bêtise. Et là, il y a plein de petites histoires très phalliques, comme ça. Et aux gens, alors, j'ai juste gardé dans le carnet d'Égypte la note suivante. Histoire rapportée par l'Inambé, 3 décembre 1849, un marabout, les marabouts sont idiots en général, dans les notes de Flaubert, un marabout se promenait tout nu dans les rues avec un chapeau sur la tête et un autre sur le vide. Il le défaisait pour pisser et les femmes stériles allaient se mettre sous la parabole d'urine et s'en arrosaient. Un autre saint, complètement idiot, mourut il y a quelque temps, épuisé par la masturbation de toutes les femmes qui allaient le visiter. Ça, c'est un peu récurrent. On a cette sorte d'exploration par anecdotes, des récits rapportés, des liens entre la bêtise et le sexe. Le voyage est aussi l'occasion de faire l'expérience, c'est pas facile à expliquer, mais c'est purement subjectif, l'expérience de la bêtise géographique, de la bêtise naturelle. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'oppose à une autre bêtise, qui est la bêtise géopolitique, ou la bêtise politique même, ou culturelle. Alors par exemple, comme bêtise naturelle, la bêtise de certains paysages, qui sont carrément navrants à voir. Voyage 10, gradé de voyage 10, c'est en arrivant en Tunisie. Jeudi, débarqué à Bonn, enfin au Maghreb. Plage d'où la mer se retire, les chevaux se baignent à grande distance du rivage, c'est désert, bête et lamentable. Mais le plus intéressant pour nous, c'est qu'il y a des notes qu'on doit rapporter nécessairement à une évaluation de la bêtise coloniale. C'est que Flaubert est dans son siècle, un des seuls, à avoir développé un discours anticolonial, franchement et clairement anticolonial. Il est, enfin, la grande surprise de Louis Collet, qui est dans 1946, lui, était toute contente de lui dire, t'as vu, on a gagné, on est au Maghreb, etc. Il vient d'emporter une grande victoire sur les Arabes. Il lui répond une lettre cinglante en lui disant, mais ça va pas, je me réjouis de nos échecs contre les Arabes et je suis de leur côté. Il fait une grande déclaration pro-Abdelkader. Eh bien, dans sa visite de la Tunisie, on a plusieurs notes sur la bêtise coloniale, par exemple, sur le déshonneur, la manière dont l'habitude prise par les bêtes tunis colonisées de se meubler à l'occidental, dans un palais oriental, crée une sorte de distorsion qui blesse les yeux de Flaubert. Vendredi, visite au palais du Bey, merveilleux plafond creusé, peint en vert et en bleu et en or, le mobilier, empire et restauration, pendule dorée à sujet, canapé et fauteuil en acajou avec des lithographies coloriées, vieux des Veria, amour, François Ier et sa sœur, déshonore cette merveille de l'architecture arabe. Et puis, bien sûr, des notes sur la bêtise et la bêtise hostile, inhospitalière, des troupes d'occupation françaises en Tunisie et en Algérie. Je relève que le passage à Soukaras. Soukaras était une garnison militaire. Bâtiment militaire de Soukaras, ville neuve, atroce, froide, boueuse. Monsieur de Lewal, Seco. Inhospitalier, Andrieux l'hôtelier, sa microscopique épouse, table d'hôte de messieurs les officiers, ignoble et bête. Voilà pour les carnets de voyage, avec, vous voyez, plusieurs directions, dont certaines vont se retrouver dans les carnets de travail. Alors, les carnets de travail, je vous ai décrit 12 occurrences pour le voyage, on va en trouver 25. Je pense qu'il y a effectivement en moyenne deux fois plus d'allusions à la bêtise, à la sottise, à la crétinerie dans les carnets de travail que dans les carnets de voyage. Mais là encore, le thème de la bêtise n'est pas présent dans tous les carnets. On pourrait s'attendre à le trouver partout, mais non. Le thème de la bêtise est complètement absent du carnet 3, carnet de jeunesse. Ça, c'est très curieux, parce que c'est une période où il était très sensible à ce genre de thématique. Il, absent du carnet 7 sur Salambo, ça, c'est moins difficile à comprendre. Absent des carnets 13, 14, 12 et 8 de l'éducation sentimentale. On pourrait, si on voulait, trouver 2-3 exemples, mais c'est franchement pas très, très fort, très présent. Absent des carnets 16 et 16 bis, qui sont les carnets de la tentation. Bon, on comprend un peu facilement. C'est l'hypothèse flaubertienne que ces rédactions-là lui permettent de se replonger dans un air plus pur, c'est-à-dire un peu moins affecté par le bacille de la connerie. Les carnets 18 et 18 bis, ça c'est plus curieux, de Bouvard et Pécuchet, d'une certaine façon, sont presque exempts de notation sur la bêtise. Ce sont des recherches qui portent sur la mise en scène par la rédaction de la bêtise, mais ce sont essentiellement des carnets d'érudition. En revanche, la bêtise est très fortement, et ça c'est une remarque dont je me suis aperçu là en faisant les comptes, est très présent dans les carnets d'idées et de projets. C'est dominant. Dans les carnets 2 et 19, qui sont les grands carnets d'idées et de projets des années 60-70, on trouve par exemple 7 occurrences fortes dans le carnet 2, 5 occurrences fortes dans le carnet 19. Et puis dans le carnet 15, qui est aussi un grand carnet d'idées et de projets des années 70, on va trouver 9 occurrences. Et pour ce qui est des calepins d'enquête, proprement dit, il y a effectivement quelques traces, il y a deux occurrences intéressantes dans les deux autres carnets de calepins de Bouvard et Pécuchet, les carnets 11 et 6, et puis deux occurrences, c'est tout, deux occurrences dans les carnets de Bouvard et Pécuchet. Le carnet de travail finalement typique pour l'enregistrement d'une réflexion sur la bêtise ou d'une notation sur la bêtise, c'est le carnet d'idées. Le carnet d'idées de projet, c'est-à-dire que c'est proche de cette fonction main courante du carnet qui enregistre au fur et à mesure du temps les idées. Alors dans ces carnets de travail, la thématique de la bêtise est travaillée surtout à travers des réflexions fonctionnelles globales, par exemple la bêtise comme consensus, la bêtise comme écrasement de l'individu par la masse. Carnet 2, je vous le cite. Alors, la plupart de ces notes sont précédées de signes kabbalistiques qui sont des X ou des O, et qui en fait sont une notation par Flaubert des passages des carnets dont il pense se servir pour le second volume de Bouvard, ou bien dont il va se servir pour la rédaction de Bouvard. Il y a donc toute une relecture des carnets au moment de Bouvard, qui est une procédure d'extraction par Flaubert des éléments relatifs à la bêtise. Donc XO, ce n'est pas contre les dieux que Prométhée aujourd'hui devrait se révolter, mais contre le peuple, dieu nouveau, aux vieilles tyrannies sacerdotales, féodales et monarchiques, en a succédé une autre plus subtile, inextricable, impérieuse, et qui dans quelque temps ne laissera pas un seul coin de la terre qui soit libre. Vous ne pressez plus sur mon corps, vous ne me forcez plus à croire, soit, mais où est le progrès du libre arbitre, et partant celui de la moralité, si, par le seul fait de l'organisation sociale, je suis fatalement contraint à penser comme vous. Ah, c'est une formule forte qui ressemble beaucoup au Andy Warhol qui dira « Il arrivera un temps où tout le monde pourra dire ce qu'il pense, mais alors tout le monde pensera la même chose. » Alors bien sûr, dans les carnets de travail, on trouve énormément de notes, et notamment les carnets d'idées, pour Bouvard et Pécuchet. Alors, il y a des notes de régie structurantes, des notes plutôt de contenu. Dans le carnet 19, je prends un peu en vrac le contenu d'une page. Comme appendice, ou plutôt dessous, pour Bouvard et Pécuchet, bien montrer tout le mal que l'action gouvernementale a produit dans les sciences et l'industrie. Lâcheté envers les inventeurs, effroi de l'originalité, de l'initiative. Littérature de Barrault, style des procureurs du roi, un monstre vomi des enfers, style militaire. Quand la religion s'en va, l'officiel arrive. Partout que l'on sente les protestations du droit de l'individu contre la masse et contre le gendarme. Alors, il y a une page aussi très intéressante sur son projet de l'art officiel. Vous savez, ce texte qui devait, en principe, prendre place dans le second volume. Je cite juste quelques éléments. L'art officiel comprendrait un précis de l'art, tel que l'entend la majorité des Français, comme preuve critique des grands succès. Puis, histoire et exposition de l'art gouvernemental, l'art jésuite, religieux, l'art populaire, l'art des gens du monde. Une histoire de l'art jésuite y rentrerait, celle de l'académie, de la censure, les discours politiques, les enthousiasmes du moniteur, tableau chronologique, revue des principaux critiques sur le même homme et les mêmes œuvres, l'art socialiste, prêcheur. Une histoire des définitions de l'art, des opinions différentes que l'on a eues sur son but, histoire de la moralité dans l'art, théorie de l'utile, de ce qu'elle peut et doit être, bien montrer partout la bêtise de l'impulsion contre, soit populaire, soit gouvernemental, comme contraire au génie des créateurs et même au sens de l'art qui est objectivité et au sens même de l'art qui est objectivité et représentation. Autre grande logique de mise en cause de la bêtise dans les carnets de travail et dans les carnets d'idées et de projets, l'idée d'un abêtissement par le règne de l'argent et par le règne de la bourse. Carnet de travail 2, là aussi on trouve XO, hein, ce sont les dénotations de demande de copie. Dans 50 ans d'ici, il ne sera plus possible de vivre, même de son revenu, sans s'occuper d'argent, comme un banquier. Il me semble que, pour l'esprit, cela équivaut à peu près à l'esclavage. Et on trouve dans un autre carnet, le carnet 15, une note tout à fait comparable. Les affaires, importance des affaires, tout y cède, ça ne souffre aucune objection. Le plus grand éloge qu'on puisse dire maintenant d'un homme, c'est quel homme d'affaires. Les carnets de travail sont pleins également de notes concernant, un peu comme on l'a vu pour les carnets de voyage, les comportements stéréotypés, les usages sociaux, l'hypocrisie sociale. Alors par exemple, les compliments exagérés quand quelqu'un vient d'être nommé élu à l'Académie française. Le carnet 2, ça c'était pour Camille Doucet, médiocre écrivain. Alors il recopie des notes qu'il a trouvées sur des cartes de visite de gens qui félicitaient. Alors c'est entre guillemets. Heureux, oh bienheureux, ma femme et moi nous sommes fous, enfin justice est faite, quel bonheur, etc. Phrase écrite sur des cartes de visite pour féliciter Camille Doucet de sa nomination à l'Académie française. Et puis bien sûr, il y a les notes sur les enterrements parisiens. Ça, Flaubert adore les enterrements, et on a une série assez importante de notes, j'en rappelle deux qui sont tout à fait formidables dans le carnet 20 au folio 18. Chilly était le directeur de l'Odéon et il a eu le malheur de perdre sa fille qui est morte jeune. Enterrement de la fille de Chilly, tous les camarades, si affligés qu'ils soient, prennent des pauses. Pas une attitude vraie. Les comiques ont une douleur bonhomme. L'attendrissement avachit mon pauvre vieux. Les tragiques, quel désastre. La main dans le gilet et la tête au vent. Chilly, dont la face ruisselait de larmes, s'était fait friser les moustaches. Même sur la même page, Belot, qui venait d'enterrer sa mère, Belot réclame dans les journaux le lendemain de l'enterrement de sa mère pour trois célébrités que l'on avait oublié de citer. Donc le mariage chic, l'enterrement chic, c'est un des moments forts de la bêtise sociale. Mais il y a la bêtise par ignorance aussi. Alors un cas, puissance des mots, ignorance française, dans le carnet 15. Après la perte du Canada, on a dit, que nous font quelques arpents de neige? Ils étaient peuplés de 2 millions d'habitants et produisaient 500 millions de francs. Cas spécial d'ignorance, l'ignorance de l'historien, évidemment redoutable, fatale, chez l'historien, en l'occurrence Renan, carnet 15, folio 6, Vie de Jésus, relu en juillet 1869, citation de Renan, « Les jardins à Tibériade étaient des massifs de grenadiers, de citronniers, d'orangers », page 66, note de Flaubert, « Les orangers datent du XIIe siècle ». Les carnets de travail sont évidemment, les carnets d'idées qui ont servi à l'élaboration lente du projet de Bouvard, très en amont, pleines de notes de structuration sur la bêtise. Là, je vais passer très vite parce que c'est connu, mais c'est important. Dans le carnet de travail 19, on trouve les premières notes du projet, les deux cloportes, course en vélocipède, intercalée dans la troisième partie le dictionnaire des idées reçues, l'histoire de l'art officiel, dont on a parlé tout à l'heure, par fragments typiques. Puis des notes qui précisaient aussi le caractère aléatoire des textes à utiliser pour le second volume. Ils copient tout ce qui leur tombe sous la main, ne pouvant, faute d'argent, avoir des livres, cornets de papier, etc., cornets à tabac. On peut insérer, et là, tout ce qu'on veut comme contraste de fait, pastiche de style, mettre des morceaux vrais, des morceaux typiques, des extraits de critiques idiots, dans tous les genres. Mais ce qui est le plus amusant, je crois, dans les carnets de travail, c'est la recherche par Flaubert des bêtises à bizarrerie. C'est un de ses traits caractères, c'est d'être toujours très attentif aux choses bizarres, aux détails étranges. Et le couple, l'alliance, les noces entre la bizarrerie et la bêtise lui plaisent particulièrement. Alors, par exemple, pour le chapitre 9 de Bouvard, où il va être question de miracles, de miracles idiots, naturellement insignifiants ou tout à fait explicables, il cherche des éléments. Il en trouve un qu'il note. Comment se font les miracles? Madame N, couturière, très pauvre, prise d'ophtalmie, continue à coudre. Elle voit progressivement quatre mains, quatre aiguilles, quatre coutures. Elle a une dioplie double à cause d'une légère divergence des axes visuels. D'abord, elle se rend compte du phénomène, mais son indigence augmentant, elle s'imagina qu'elle faisait réellement quatre coutures à la fois et que Dieu, touché par son infortune, faisait un miracle en sa faveur. Et puis alors il y a ces notes très très étranges qui sont d'ailleurs retenues pour le sottisier du second volume. Dans le carnet 15, si on se donnait la peine de recueillir et d'ajouter les unes à la suite des autres les barbes coupées pendant 30 ou 40 ans, on obtiendrait une longueur de plusieurs mètres. Par Picherine, gymnaste, médecin. De même, il en trouve évidemment quelques-unes chez Raspail, qui est un grand producteur de bêtises, dans l'histoire naturelle de la santé et de la maladie, comme celle-ci, d'ailleurs précédée de copies. C'est ce qui explique la mort si hideusement extraordinaire de ce mari, dont on parlait les journaux judiciaires, dans la bouche duquel sa drôlesse de femme avait cru déposer une simple plaisanterie en y lâchant un vent. C'est dans les carnets de travail également que se trouvent les premiers éléments de ce qu'on pourrait appeler le principe d'autodestruction de la bêtise par mise en parallèle des opinions contraires. Et par exemple, il y a un très joli cas qu'on pourrait presque estimer être un cas où Flaubert est médiologue avant la lettre, où il s'interroge sur la bêtise de l'interprétation des bienfaits du chemin de fer. Et il montre comment il y a deux interprétations possibles qui, de toute façon, se bouffent l'une l'autre. Chemin de fer, à propos des pèlerins de Lourdes. L'invention des chemins de fer fut mal vue par le clergé, témoin le mandement de l'évêque de Besançon, Bouvier, qui les considère comme envoyés par Dieu pour punir les hôteliers de la violation du dimanche. Les libres penseurs, au contraire, les ont considérés comme devant favoriser les vues, leurs vues, pardon, par le rapprochement des peuples, l'effacement des préjugés, l'effacement des distances. Et voilà que les chemins de fer servent au pèlerinage d'une manière inespérée qui s'est trompée des deux parties. Mettre en parallèle un banquet gambettiste et un train de pèlerin pour Lourdes. Lourdes m'a l'air d'enfoncer la salette parce qu'il est plus nouveau. Lourdes est le Deauville de la dévotion moderne. La salette en serait le Dieppe. Autodestruction de la bêtise dogmatique par opposition des contraires avec un élément fort et un élément complètement idiot. OX, pareil, ça c'est pour la copie, dans le carnet 15. Le dogme du progrès, oui non, là c'est plutôt dans l'histoire, dans la mécanique de l'histoire. Le dogme du progrès est la réaction du dogme de la chute. Première doctrine, la chute, on est de plus en plus perverti. Deuxième doctrine, le progrès, on l'est de moins en moins. Et puis, il y a le parallèle idiot, c'est ça que j'évoquais tout à l'heure, comparer le Coriolan de Shakespeare au Coriolan de l'abbé Abeille, 1776. Alors, les carnets de travail sont pleins également de lectures bêtes, affichées comme telles. Ce sont notamment les lectures en 78, en avril 78, pour la préparation du chapitre sur la littérature. Donc je vais vite. Carnet de travail 6. Alors Genghis Khan ou la conquête de la Chine chez Anicet Bourgeois. Landry, loustique parisien, ancien domestique de Marco Polo, débite des facéties, illisible de bêtises. Carnet 6, folio 67 verso. Le fratricide ou Gilles de Bretagne, chronique du XVe siècle par le vicomte Walsh, arrivée du duc au château de Chantilly. On joue un mystère, tribu des vassaux, redevance bizarre, impossible de continuer, c'est trop bête. Un beau passage dans les carnets de travail sur les recherches de bêtises pour Bouvard et Pécuchet. Vous savez qu'au chapitre 5 de Bouvard et Pécuchet, les deux commis deviennent archéologues. Et ils se mettent à transformer leur maison en bric-à-brac, en musée. Et alors, avant de partir à la rédaction sur la rédaction de ce chapitre, Flaubert s'en va en repérage pour trouver des exemples d'objets bêtes qui pourraient être des objets de collection collectionnés par les commis. Et il trouve ces objets principalement à Caen, dans le musée de la Société des Antiquaires de Caen. C'est là qu'il trouve son bonheur. A commencer par une grosse pièce de bois complètement idiote qui est donnée pour un gibet. Et on va retrouver la grosse pièce de bois dans l'entrée de Bouvard et Pécuchet, naturellement. Il note en entrant dans le musée de la Société des Antiquaires, dans l'escalier, carcan de haute justice dans le beau, qui est une simple poutre. Et puis il prend trois pages de notes, d'ailleurs où on trouve l'essentiel des objets qui vont se trouver chez Bouvard. Et puis enfin, on arrive à l'objet idéal, la statue de Saint-Pierre, bien connue. Alors voilà une note qu'il prend au musée des Antiquaires. Une statue de Saint-Pierre, sa tiare est jaune, clé énorme, verte. Il a les yeux écarquillés, le nez de côté, très saillant, des fleurs de lys sur les épaules, chasse bleue, bordée de galons jaunes, jupe rouge, gants anneaux décorés d'une pierre précieuse, l'index en l'air, les joues fardées, l'air d'un ivrogne et d'un cuistre, est assis et présente naïvement sa face bête et impudente, à ses pieds un petit diacre. C'est l'œuvre d'un maçon de la fin du XVIIIe siècle, point d'interrogation, provenance inconnue, point d'interrogation. Et je vous donne le texte donc du roman final, début du chapitre 5. 6 mois plus tard, ils étaient devenus archéologues et leur maison ressemblait à un musée. Une vieille poutre de bois se dressait dans le vestibule. Les spécimens de géologie encombraient l'escalier et une chaîne énorme s'étendait par terre tout le long du corridor. Puis il y a une longue description des objets accumulés. Et enfin, on arrive au plus beau. Mais le plus beau, c'était dans l'embrasure de la fenêtre, une statue de Saint-Pierre. Sa main droite couverte d'un gant serrait la clé du paradis de couleur vert pomme. Sa chasuble que des fleurs de lys agrémentaient était bleu ciel et sa tiare très jaune pointue comme une pagode. Il avait les joues fardées, de gros yeux ronds, la bouche béante, le nez de travers et en trompette. Au-dessus pendait un baldaquin fait d'un vieux tapis où l'on distinguait deux amours dans un cercle de roses. Et à ses pieds, dans une colonne, se levait un pot à beurre portant ces mots en lettres blanches sur fond de chocolat, exécutés devant Son Excellence le Monseigneur le Duc d'Angoulême, à Noron, le 3 octobre 1817, Pécuchet de son lit apercevait tout cela en enfilade, et parfois même, il allait jusque dans la chambre de Bouvard pour allonger la perspective. Voilà. Et n'oublions pas que le musée des antiquaires de Caen se trouve à Caen, et que Caen est aussi l'objet d'une recherche dans les carnets pour la philologie celticiste. Et vous savez pourquoi Caen s'appelle Caen? Parce que quand les premiers hommes sont arrivés à Caen, il y avait juste une mare avec des canards qui faisaient Caen, Caen. Enfin, je termine pour les carnets sur un type de notation particulièrement fort qui est qui ne se distille que dans les carnets mais qui va être beaucoup utilisé dans la correspondance, ce sont les maximes. Alors les carnets d'idées et de projets sont particulièrement propices à la fabrication de ces formules. Je vous en cite quelques-unes. Carnet 2, une sottise ou une infamie, en se renforçant d'une autre, peut devenir respectable. Collez la peau d'un âne sur un pot de chambre et vous faites un tambour. Pas mal. Carnet de travail numéro 2, qu'est-ce que la gloire? Faire dire beaucoup de bêtises sur son compte. Et puis il y a cette fameuse maxime pour régler sa vie, la maxime libertaire de Flaubert, avec une image, finalement je crois assez juste, d'un Flaubert anarchiste. Alors de droite ou de gauche, ça reste à voir, mais peut-être que tout anarchiste est un peu de droite, de toute façon, mais voilà la formule, telle qu'elle s'élabore dans le carnet, hein, il est en train de l'écrire, elle est raturée, règle de conduite, le grade des grades, barré, la fonction abétie, la fonction bétifie, le grade des grades, le titre déshonore. Et ça donne donc la fonction bétifie, le grade des grades, le titre déshonore. Alors, je ne reviens pas sur les occurrences variantes de cette formule dans la correspondance, mais elle est souvent présente. Il demande même, à la fin de sa vie, après l'avoir... Oui, je vais citer ça quand même. Au jeune Maupassant, il lui dit qu'il espère que son roman Bouvard-Pécuchet dépassera comme violence l'article de Zola, et puis qu'on ne le décorera plus jamais pour un texte. Et puis il regrette d'avoir eu la Légion d'honneur, et il dit « Ce qui me sauve, c'est que je ne l'apporte pas, axiome, les honneurs déshonorent, le titre dégrade, la fonction abrutie. Guy, écrivez ça sur les murs, je vous embrasse. » Pour finir, deux très belles formules, une qui porte sur la bêtise, il y a beaucoup à dire dessus, notamment à nos amis de Rouen. Sur la bêtise des oppositions Paris-Province, ne pouvoir se passer de Paris, marque de bêtise, ne plus l'aimer, signe de décadence. Et puis une maxime globalisante, superbe, que je garde pour finir. Dans le carnet 19, folio 15, quel est l'imbécile qui a dit ceci? Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que Voltaire, c'est tout le monde? Pas du tout. S'il y a quelqu'un de plus bête qu'un idiot, c'est tout le monde.
Très bel exposé, très riche, et puis ce qui est très intéressant, c'est la diversité de la thématique de la bêtise à travers les carnets de voyage et les carnets de travail. Mais les carnets de travail, on sent que c'est plus resserré autour de la problématique qui va se trouver dans Bouvard et Pécuchet. Et alors, pour qui travaille sur Bouvard et Pécuchet, on a l'impression que ce roman absorbe rétrospectivement tout ce qui est écrit. Il y a vraiment des choses, en t'écoutant, des échos sans arrêt du sottisier. Je vais peut-être ouvrir le débat, la discussion, les remarques. L'auditoire est sidéré par le...
Bon.
En rapprochant deux citations que vous avez données, la fameuse citation sur le pilouf qui avait gravé son nom dans les normes, et puis qu'est-ce que la gloire fait à dire au plus bêtise sur son compte, on peut se demander si la postérité, la croyance à la postérité pour Flaubert n'était pas une forme de bêtise. C'est quand quand même rare dans l'histoire de la littérature que pouvoir graver son nom, au fond, faire parler de soi par des indécis. Est-ce que c'est tellement différent
Je crois que vous avez, vous mettez le doigt sur une question absolument fondamentale. J'avais pensé à un certain moment réorganiser l'ensemble de ces remarques autour d'une sorte, enfin, ce qui aurait été une sorte de déduction logique des grands chapitres, quoi, de l'interrogation de Flaubert sur la bêtise. Et le plus massif, probablement, est celui de la question être connu. C'est visiblement Flaubert enregistre l'existence d'une société de masse qui est en train de se construire, d'une culture de masse qui se construit, et même d'une industrie culturelle de masse qui commence à exister. Et on sait comment ceci le conduit à produire le système de l'autonomie de l'artiste et à prendre des positions très hostiles à la modernité. Mais la question, disons, des structures techniques de la notoriété est fondamentale pour lui. Le côté dérisoire du type qui met son nom sur un monument, mais ça existe encore, ça se pratique quand même partout encore, ça, est évidemment le niveau zéro, quoi, de la volonté de se faire connaître des autres. Mais d'une certaine façon, c'est une parabole qui joue à plein, comme vous le dites très bien, comme une sorte d'exemple où, au fond, la décision, par exemple, d'un écrivain de mettre son portrait photographique en frontispice d'un livre n'est pas très différent. Et en fout Flaubert de ça. Flaubert est quelqu'un qui écrit « On meurt toujours dans l'ignorance de son nom, sauf si on est un idiot ». Donc, oui. Mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas posé la question de la postérité. C'est ça, il se la pose de la façon la plus radicale. C'est-à-dire en sachant qu'on entre dans une ère de vulgarité extrême, la nôtre, voilà. Dans une ère de qu'on pourrait dire de tout communicationnel, où ce qui compte c'est le moment présent, c'est être connu de son vivant, si possible, quoi. Et en se donnant l'obligation, quant à lui, de ne penser qu'à la postérité lointaine, aussi longtemps que la langue vivra.
Ouais. J'ai pensé aussi, dans la même logique, à la question de la maxime. C'est aussi, c'est aussi réversible, c'est-à-dire toute assertion forte et qui prend valeur de vérité est susceptible de devenir bêtise. Mais à part que ce sont des carnets privés, c'est-à-dire qu'il écrit les maximes pour lui-même.
Mais c'est pas complètement.
Il est diffus dans la correspondance.
Oui, les carnets sont une espèce de petit laboratoire, de petite fabrique pour des formules qui vont être utilisées très souvent dans la correspondance et avec une diffusion à plusieurs destinataires dans beaucoup de cas. Mais on peut remarquer qu'au fond, les formules qu'il conserve sont des formules assez difficiles à renverser, quoi. Je pense qu'il est très attentif à ça, à ce risque-là. Et puis il y a le côté un peu provocateur aussi de Flaubert, son côté volontiers théâtralisant, quoi. Sa maxime de vie, le titre des grades, l'honneur des honneurs, etc. C'est une maxime quand même plus libertaire que ne l'a été la vie de Flaubert, qui a quand même accepté de recevoir la Légion d'honneur. Il s'en est mordu les doigts, mais enfin, il a quand même accepté. Et il a eu vis-à-vis de l'Élysée, de l'époque, une attitude comparable à celle de certains de nos intellectuels aujourd'hui à l'égard de l'Élysée. Courtisan, non, on ne peut pas dire ça. Courtisan, je ne crois pas. On ne peut pas dire parce qu'il il n'a jamais, par exemple, il n'a jamais cherché à se rapprocher de l'empereur, ni à dire publiquement quoi que ce soit en faveur du régime.
Il est fasciné par il est quand même fasciné par Compiègne, même si.
Il est fasciné par Eugénie, surtout. À mon avis, il craque pour Eugénie, gravement, et pour Madame de Rimsky-Korsakov, mais. Et tout ce qui peut le rapprocher des jolies filles de l'Élysée, oui, ça, c'est un peu, c'est la problématique Carla, complètement. Ouais, c'est... Mais courtisan, franchement, oui, c'est trop fort.
D'autres remarques, questions? Oui.
Une forme de colonialisme, d'orientalisme. Ah oui, bien sûr. Oui, non. Oui, 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 bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Mais ce qui distingue Flaubert, si vous voulez, du courant orientaliste contemporain, c'est qu'il a un regard d'une vigilance extrême sur le poids, la violence du modèle occidental imposé au modèle oriental. Et ça. Bien avant même d'aller en Orient. Hein, à la lecture simplement des journaux de la conquête française du Maghreb, je vous disais, sa réaction est morale. Elle est morale et politique. C'est impossible. On n'a rien à faire là-bas. Et il est pratiquement tout seul à son époque. Il va transmettre ça. En 46...
Tocqueville,
Tocqueville qui prônait le meurtre.
Il y avait une très forte opposition à la chambre la conquête.
Ah non, mais pour des raisons. Oui, mais pas du tout pour des raisons de morale politique.
Mais
si, non. Pour des raisons de fric.
Tous, il y en avait qui disaient, mais non, ça, là, je te corrige. Non.
En tout cas, 46, tu me trouveras dans le monde littéraire. On ne parle pas des questions politiques, parce qu'à la chambre, c'était assez compliqué. C'était beaucoup des questions de fric. Hein. On trouvait que ça coûtait beaucoup trop cher. Pour revenir à la question, les remarques qu'on trouve dans les carnets sur l'Orient, dans la manière dont l'Occident dégrade une sorte de pureté, là, je crois que c'est véritablement un fil continu, un fil rouge. Imaginons Flaubert aujourd'hui, vous voyez, après les déclarations de notre ministère de la Défense indiquant qu'on allait envoyer des policiers pour faire la répression à Tunis, il y a deux jours.
Une bonne répression.
Hein, une bonne répression.
Une bonne répression, voilà. Gentille.
Voilà. Donc, je pense que là, Flaubert avait tout de suite son carnet ouvert et notait la chose. C'est...
Françoise Gaillard.
Oui, non, pour continuer cette discussion, je ne sais pas, mais c'est vrai, autant que il était pour défendre les enfumades du jour. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait des réactions qui étaient, comme tu l'as rappelé, d'ordre économique, ça coûte cher, ça ne sert à rien. Et ensuite, d'ordre moral, il y avait véritablement une indignation morale qui s'exprimait politiquement et qui s'exprimait dans la presse. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux intervenir, c'est dans le prolongement de ça. À la limite, la réaction de Flaubert, à savoir que le mobilier occidental dans un palais oriental déshonore d'une certaine manière l'architecture et la beauté de ce palais, me paraît aussi relever d'une forme aussi de bêtise et de mythe orientaliste dont il participait énormément. Quand on lit certaines pages voyage en Orient, etc., il est entièrement dans cette mythologie orientaliste. Et donc, ceci, donc cela.
Oui, on peut voir les choses comme tu le dis. Est-ce qu'il s'agit de... est-ce qu'on peut faire l'équation orientalisme égale bêtise?
Je dis pas bêtise, il donne dans les mythes.
Mmh. Ah oui, oui.
Dans les écrits, les clichés, les stéréotypes, etc.
Mais
comme on n'a pas arrêté l'année dernière de montrer que le cliché, le stéréotype, était aussi une expression formelle, en tout cas, de la bêtise, voilà.
Et je crois que le vrai débat de l'époque, c'était c'était la modernité occidentale au secours de la, au secours de l'Orient enfoncé dans la nuit des temps et dans l'archaïsme. Et de ce côté-là, il y a une. Je ne sais pas si c'est seulement par mythe orientaliste qu'il s'y oppose, quoi. Je crois qu'il y a un relativisme ethnographique chez Flaubert qui est quand même peu partagé par son époque, quoi. Enfin,
oui, il est orientaliste d'une certaine manière, évidemment, en particulier oui. dans la dimension érotique de l'orientalisme, tout ça, enfin, ça c'est très clair. Mais en même temps, c'est vrai qu'il veut dégager de cette. Vis-à-vis de cet orientalisme, la corruption qu'on pourrait appeler occidentale, européenne. Et Salammbô est écrit autour du canal de Suez. C'est-à-dire que Salammbô se réfère au canal de Suez, à la question du canal de Suez, d'une certaine manière, parce que ce que. Et à la fin de sa vie, il voulait écrire un livre de corruption réciproque, des coloniaux, à quel point les coloniaux sont occidentaux sont détruits. Par ce qu'ils sont en train de détruire. Et il y avait cette idée précisément d'un roman oriental qui aurait été un roman oriental moderne, c'est-à-dire cette espèce de corruption de la colonisation double. Et on retrouve là effectivement le même type de position qui est celle vis-à-vis de la révolution de 48, avec une égalité bête brute. Donc il y a cette position politique, il l'a aussi par rapport à l'orientalisme et au colonialisme, ça c'est très clair.
Celle-là, on la trouvera davantage, bizarrement, je vous en écris pas évidemment, qui n'est pas du tout la même envergure, mais qui est le Lotti.
Oui, absolument. Oui, mais pas Lotti maintiendra une dimension de l'exotique, disons.
Oui, mais cette idée...
Et la richesse de l'exotique, alors que Flaubert...
De dialectique, etc., on va trouver chez Lotti.
Mais l'exotique n'intéresse finalement pas Flaubert.
Je voudrais juste signaler que...
Son ambiance est celui de Jérôme. Allez voir l'exposition si vous n'avez pas vu quand elle va se terminer.
Pour Salammbô, je voulais signaler que normalement, au prochain séminaire, on pourra présenter l'édition de Jacques Neffs dans le livre de poche qu'on attend. Belle édition de Salammbô.
Prévue en février.
Voilà, livre de poche.
J'avais dit une question.
Ah, tu as encore une question?
Non, allez.
Madame, levez la main depuis longtemps.
Je voulais simplement mentionner un autre.
Ah oui, bien sûr. Maupassant a été totalement, je crois, formaté par Flaubert de ce point de vue-là. Et j'ai dans mes cartons le projet d'édition d'un voyage en Tunisie par les écrivains français du 19e, où on peut faire se succéder les textes de Chateaubriand, de Dumas, de Flaubert et de Maupassant. Et c'est tout à fait fascinant, parce qu'ils mettent tous les pieds dans les mêmes traces, quoi. Ils voient tous la même chose à des moments différents du 19e. Chateaubriand, avant toute espèce de conquête coloniale, avec un regard purement littéraire sur les choses, c'est-à-dire il n'a pas bougé de Tunis et il a tout réinventé à travers les textes cités. Dumas, alors, faisant lui une. Alors, très franchement, colonisateur et très à l'aise dans ce rôle, faisant sonner, enfin, tirer le canon quand il arrive en bête Tunis, etc.
Il était envoyé par le gouvernement.
Oui, dans des conditions extraordinaires, quand même. Hein. Extraordinaires. Flaubert, c'est notre carnet. Flaubert, donc, carnet 10. Et puis les notes de journaux de Maupassant qui sont très intéressantes, au point que je cherchais dans les carnets hier soir et avant-hier une note sur tout à fait curieuse sur les ponts. Une note disant les Français font des ponts en Tunisie et tous ces ponts-là s'écroulent. Alors qu'ils ont fait tomber les ponts à la dynamite, les ponts arabes qui eux tenaient depuis 20 siècles, quoi. Et puis en fait c'est par erreur parce que c'était pas Flaubert qui avait écrit ça, mais c'est Maupassant. Mais on sent une filiation alors là très très forte. Mais il pousse l'anticolonialisme à ce qu'il devient dans les années 80-90, c'est-à-dire une vraie expression politique nouvelle, quand même. Enfin, oui, vous avez tout à fait raison.
Je passe un peu, non, c'était un autre point, c'est la question des curiosités. C'est-à-dire que c'est toi, la barbe, tout ça. Est-ce que c'est de la nature de la bêtise? Ou alors c'est une bêtise d'époque, c'est-à-dire s'intéresser à... Alors, dans le pouvoir épicucher évidemment les capes, et en particulier pour les dossiers, mais même dans le, par exemple, le chapitre médical, les capacités de ne pas aller à la selle pendant 3 mois, etc. Enfin, toutes les... Ces espèces de curiosité, ça c'est vraiment une chose d'époque. La question de la barbe me fait penser, quand j'étais enfant, j'avais un album de vieilles cartes postales, et il y avait l'une d'elles d'un vieillard qui avait la barbe la plus longue du monde. Alors une barbe d'1m50, cette carte avait peut-être de la valeur maintenant d'ailleurs, mais je veux dire, c'était conservé. Alors est-ce que ce type de curiosité, d'exploit, le livre des records, les records imbéciles, quelle est la nature de la bêtise de ce type de curiosité? Ça, je serais curieux sur la nature de cette bêtise-là.
Oui. Dans la correspondance, c'est très fréquent ce genre de notation aussi. Il y a une curiosité flaubertienne qui est peut-être une curiosité d'époque, mais enfin qui est quand même très développée chez Flaubert, du côté du scatologique aussi, il faut le dire. Et ça tient peut-être à la famille de médecins aussi. Hein. Il y a ce côté-là.
Il y a aussi le bizarre. Ouais. Il y a aussi le bizarre.
Et la bizarrerie et tout ce qui de proche en proche amène à l'hallucination et à la folie, ça, c'est la petite lampe rouge qui s'allume. Dès qu'il tombe sur un truc comme ça, ça l'intéresse, quoi. Vraiment.
Pour les monstres aussi, la
monstruosité. Oui, la même chose.
Ça, en fait, qui est
mais dans la copie de Bouvard et Pécuchet, il y a une catégorie de bizarrerie, nomenclature. Et c'est pas loin des statistiques aussi. Les statistiques, le nombre de d'hommes morts de joie,
C'est la nature d'époque de cette curiosité qui me paraît tout à fait intéressante, tout à fait fascinante.
Dans la correspondance, il y a le cas.
Il la décèle parfaitement, c'est ça la chose. Parce que ces bêtises-là, il ne fait que les déceler, et les produire, si je puis dire.
Mais ce qui est vertigineux, c'est que ce sont des bêtises qui sont au départ souvent de petites bêtises, mais qui finissent par prendre une dimension stupéfiante. C'est le cas, par exemple, c'est pas dans les carnets, mais dans la correspondance de l'homme au vert solitaire, qui est un cas que Flaubert trouve extraordinaire, et que je trouve extraordinaire dans la façon dont il le raconte aussi. Un type qui était dans le voisinage et qui avait attrapé le vert solitaire et qui parlait à son vert solitaire et qui était entré dans une espèce de guerre avec son vers solitaire et qui a fini par se suicider pour tuer le vers solitaire. C'est formidable. Et là stupéfaction et bêtise, mais folie aussi. Quoi.
C'est ça, parce que on entre dans un merveilleux sujet de petites nouvelles.
Oui.
C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer le récit de cette folie. L'homme au vers solitaire pourrait devenir une sorte de petite fable fantastique. Et c'est ce seuil qui est fascinant chez Flaubert, c'est que dans toutes ces choses. Alors il y a deux éléments. Un, quelquefois leur excès. Deuxième, c'est celui du cumul. C'est-à-dire que c'est la multiplicité de ce type de curiosité, d'excès, de bizarrerie qui devient un paysage. Et ça, c'est la subtilité de ce pouvoir de capter, de collectionner pour que ça prenne sens ensemble. Ça, c'est... Mais encore une fois, la nature de cette bêtise, de la bizarrerie, elle est très curieuse, très intéressante, parce que est-ce que c'est le sens humain qui se perd? Est-ce que c'est au contraire l'idée qu'au fond il n'y a pas de limite, il y a une espèce de continuité des choses? Est-ce que c'est parce que c'est difforme? Parce que c'est quelque chose qui excède?
C'est la tradition aussi du cabinet de curiosité.
Alors c'est la tradition évidemment scientifique du cabinet de curiosité.
Sauf que le cabinet de curiosité a un rapport scientifique
et à la norme.
C'est
à la norme, là c'est détourné.
Ça n'a pas de signification, c'est le Guinness Book.
De même,
c'est l'héroïsme sur des choses nulles et vides.
Absolument. De même, ce que tu citais sur le musée de Caen, la description des pièces en musée est absolument géniale, mais qu'est-ce qu'il voit là? Il voit la nullité moderne d'un musée qui se fait. Et en même temps, ça va presque plus loin, c'est-à-dire qu'il projette quelque chose comme une espèce d'installation du ridicule. Et chaque fois que je lis la description du Saint-Pierre, me dit, mais il faudrait le réaliser, ce Saint-Pierre. Mmh. Ce Saint-Pierre, il devrait être à l'entrée... Voilà, le Saint-Pierre en plâtre avec la peinture devrait être à l'entrée de l'Item rue Laumont. Il y a une sculpture à faire là qui est tout à fait extraordinaire. Qui est
saisissante. Alors, on peut la faire, oui.
C'est post-moderne, enfin, il y a quelque chose d'excessif qui est tout à fait extraordinaire.
Avec après, les couleurs fluo.
La qualité du paradis est verte fluo. Mmh. Et ça, là, il rêve de figures paradoxales, intenses, très bizarres.
Oui. Là, il le rajoute, ça c'est vraiment...
C'est la...
Ouais, non.
Et donc, il décèle ça dans des choses communes, anciennes, archaïsantes. Il décèle cette espèce de puissance de figure bizarre. Ça, c'est tout à fait...
Plus cet élément qui est formidable, qui est pointé par les carnets, qui est dans le musée des antiquaires de Caen, le fait que tout tient dans le titre, tout tient dans l'appellation, c'est-à-dire dans le mot. Ils collent une grosse poutre et ils disent « gibet, machin », et alors... C'est le rapport entre cet objet qui pourrait être n'importe quoi et puis le cartel, l'écriture au fond, qui se met à jouer à plein d'un point de vue symbolique. C'est fort comme représentation du pouvoir littéraire, hein, du pouvoir.
Oui, et puis sur le musée, c'est du Duchamp à l'envers. Mmh. La pelle de neige qui peut devenir un objet de musée, là c'est au contraire n'importe quoi qui peut devenir un objet symbolique, historique, etc.
Enfin, c'est comme ça. L'art qui figure la collection de Camus.
Oui, bien sûr. Dressé.
Alors là aussi c'est un seuil entre l'identifié, le symbolique qui est flottant. Et est-ce que c'est encore bêtise ?
Non,
c'est la perte du sens qui est intéressante, c'est la frontière du sens qui est intéressante.
Bon, on va peut-être faire remercie encore Pierre-Marc de Biasi et puis on fait une petite pause entre les deux interventions. Donc on reprend, si vous voulez bien, à 11h30.